au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 5 mai, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était très venteux. On a eu droit à des orages par endroits là, au cours de la journée. L'émission aujourd'hui, Daphné Bonnard-Witz, elle est représentante de ce nouveau comptoir d'aide alimentaire qui s'installe là, du côté de l'Épiphanie. Jacques Plante sera avec nous. On va parler du discours inaugural de la première ministre Christine Fréchette. Sybille Flamand sera avec nous, chef du conseil des Atikamekw de Manawan. Il sera question de la journée de la robe rouge. Oui, c'est aujourd'hui. Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette, qui nous parle du patchage de la rue Baudry à Joliette. André Saint-Martin avec nous, aussi actionnaire du monastère des Moniales dominicaines de Berthierville. Monastère qui n'a plus de propriétaire. Mais tout d'abord, au sujet des nouveaux tarifs imposés par les États-Unis sur les produits transformés concernant l'acier, l'aluminium ou encore le cuivre, le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie, revient à la charge et dépose une motion à la Chambre des communes. Selon Gabriel Sainte-Marie, le gouvernement ne ferme pas la porte. Entretien qui a été réalisé un peu plus tôt avec François Morin.
Gabriel Sainte-Marie, donc, vous avez déposé une motion ce matin à la Chambre des communes qui demande essentiellement au gouvernement des mesures immédiates pour contrer les effets des nouveaux tarifs américains sur les produits transformés qui contiennent de l'acier, de l'aluminium et du cuivre.
Oui, puis ça, c'est majeur pour l'ensemble des régions au Québec, notamment Lanaudière. C'est les entreprises, souvent les PME, qui vont faire des produits exportés aux États-Unis. S'il y a 15 % d'acier ou d'aluminium ou de cuivre, là, c'est un tarif de 25 % depuis le début du mois d'avril sur l'ensemble de la valeur. Fait que ça vient vraiment tuer la compétitivité. Les clients américains, ils n'auront pas le choix. Ils vont se dire, tant que ça, c'est maintenu, ben, on va arrêter de commander auprès des PME du Québec. On va se tourner vers des fournisseurs américains. Même s'ils sont plus chers, là, ils sont moins chers à cause du tarif de 25 %. Fait que c'est une crise majeure. Ça va frapper toutes les régions du Québec. Il faut que le gouvernement prenne des actions qui répondent à ça pour maintenir en vie nos PME.
On comprend que c'est une motion. Quel a été l'accueil d'abord des oppositions?
Ben, ils saluent, ils sont en faveur. On l'avait rédigé de façon à dire, à la laisser large pour qu'on ait un appui. Parce que hier, ben, premièrement, la semaine passée, dans mise à jour économique, le premier ministre Marc Carnet nous avait dit, nos réponses vont être dans mise à jour. On arrive la mise à jour, aucune réponse face à ce décret-là, qui est arrivé plusieurs semaines avant dépose de la mise à jour. Fait que là, hier, Mélanie Joly a fait une mise à jour de la mise à jour en disant on va faire des prêts, mais on n'est pas sûr que les PME vont pouvoir s'y qualifier parce qu'il faut avoir un chiffre d'affaires de minimum 5 millions de dollars par année. Puis, c'est des prêts. Puis, nous autres, on a fait une étude au comité de l'industrie là-dessus, une étude d'urgence. Toutes les PME, tous les représentants d'entreprises sont venus dire, écoutez, aidez-nous, mais les prêts, là, ça marche pas. On est déjà endettés. Puis là, le carnet de commandes est vide. L'enjeu, c'est il faut continuer à payer les soudeurs, les opérateurs, les machinistes, des emplois qui sont en pénurie. Donc, si les PME les laissent aller, ça ne veut pas dire qu'ils vont en retrouver. Ça va être bien compliqué. Donc, comment passer à travers cette situation-là? Parce que souvent, c'est des PME qui sont là depuis plusieurs décennies. Donc, juste des prêts, c'est insuffisant. On demande d'aller plus loin. Le gouvernement laisse la porte ouverte, mais est-ce qu'il va agir à temps? Ça reste à voir.
Bon, justement, j'arrivais là. Le gouvernement laisse la porte ouverte, mais de quelle façon?
Ben, on salue le fait qu'il y ait une ouverture d'esprit. Je pense quand ils vont voir c'est quoi l'ampleur de la crise, parce que là, on est juste au début de la crise, parce que les contrats, ils ont été passés, les entrepôts, les inventaires sont encore à être livrés. On s'inquiète pour les prochaines semaines, les prochains mois, quand le contrat va être renouvelé, ben là, on a peur que le carnet de commandes se vide, puis c'est là que ça va frapper. Puis déjà, depuis les dernières semaines, on voit plein d'entreprises fermées au Québec, en lien directement ou indirectement avec ça, mais toujours en lien avec l'attitude hostile là, de Donald Trump. Donc, qui prennent acte de la situation. Nous, on se désole du fait que c'est nous qui avons informé le gouvernement de l'impact de ce décret-là. Ça prend des semaines à bouger. Puis là, ben, c'est des programmes de prêts qui seront peut-être pas accessibles aux PME. Je pense pas qu'ils réalisent la gravité de la situation. Quand ils vont le réaliser, est-ce que ça va prendre une subvention salariale ou plein d'autres mesures pour maintenir le lien d'emploi puis permettre à ces entreprises-là de se rendre en juillet ou à l'automne? On va voir combien de temps ce décret-là va rester en vigueur.
Puis il faut comprendre, peut-être que les gens le savent pas, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres entreprises qui sont impactées de façon indirecte. En fait, les entreprises qui produisent des matériaux ou des produits finis, mais il y a les entreprises qui les fournissent.
Oui, on a entendu beaucoup de ces entreprises-là. Donc, la personne qui exporte aux États-Unis, ben là, le tarif de 25% fait que son carnet de commandes risque de se vider. Mais tous les fournisseurs, les PME, les entreprises qui fournissent cette entreprise-là, c'est des exportateurs indirects. Puis, ben, si le carnet de commandes de la PME se vide, ben, elle va moins passer de contrôle auprès de ces entreprises-là qui la fournissent, sont autant touchées. Hier, en comité, j'ai demandé à la ministre Mélanie Joly de s'assurer que les programmes d'aide vise aussi ces entreprises-là. Elle dit oui, mais elle a donné des conditions, puis c'est flou un peu. En fait, les conditions d'aide ne sont pas encore finalisées. On les attend avec impatience. Puis on veut que ça soit large pour couvrir les entreprises qui exportent directement ou indirectement, puis qui sont touchées de plein fouet par ces tarifs illégaux, faut-il le rappeler, de 25%.
Techniquement, est-ce que la motion a déjà été adoptée ou elle devra passer au vote?
Oui, ça va passer au vote. Normalement, ça serait demain. Donc, toute la journée, on en débat. Puis demain, ça serait voté, mais je m'attends à ce que ça soit à voter en faveur. Donc, il dit au gouvernement, occupez-vous-en. Je pense qu'on est capable de chercher un consensus en chambre, mais après ça, l'autre étape, c'est de s'assurer que ça reste pas des belles paroles pour Marc Carnet puis son équipe, puis que ça se concrétise, parce que l'économie des régions au Québec fait face à une crise majeure.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie. Dans un moment, on s'en va à Berthierville maintenant pour parler du fameux monastère des moniales dominicaines.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficace pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquée sur mesure, elle s'adapte à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location de 36 mois et profitez de taux fidélité aussi bas que 0% chez Joliette Nissan.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 30 juin 2026. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Votre entreprise est-elle prête pour une cyberattaque? Cela peut coûter très cher. Avec Fleet Info, protégez vos données, vos systèmes et votre entreprise grâce à des solutions de cybersécurité fiables et surveillées. Ne prenez pas de risques. Sécurisez avec Fleet Info, expert TI.
Prochain gros lot du Lotomax, 65 millions plus 8 max millions. Donc, si vous gagnez avec un groupe de 65 personnes, tout le monde devient millionnaire. Un million pour toi, un pour toi, un pour toi. CFNG.
Lanoudière PM. Immobilier.
Il est 16h14. Le monastère des Moniales dominicaines de Berthierville n'a plus de propriétaire. La compagnie à numéro qui l'a acquis en 2019 dans le but de transformer le site en quartier résidentiel a renoncé à son droit de propriété. On était tanné là, des multiples procédures intentées par le ministère de la Culture et des Communications là, qui a classé le lieu patrimonial. Et François Morin en a discuté avec un des actionnaires, André Saint-Martin.
Alors, M. Saint-Martin, la saga avec le ministère de la Culture et des Communications se poursuit, mais là, ce que je comprends, c'est que la balle est maintenant dans son camp, là, depuis quelques jours à peine. Vous n'êtes plus propriétaire du monastère.
Oui, effectivement, depuis vendredi après-midi, suite à leur visite, suite aux ordonnances, à ne plus finir pour réparer, que ce soit la toiture, il y a toujours quelque chose, fait que c'est impossible de d'investir dans le monastère. Fait qu'on a pris la décision de l'abandonner.
Et là, ça s'est fait devant notaire, donc vous êtes effectivement plus propriétaire là, comme tel.
Effectivement, depuis vendredi après-midi.
Depuis la saga, depuis que ça a commencé, cette histoire-là, en 2019, peu de temps là, après que vous ayez pris possession des lieux, vous avez dû injecter là, des millions dans cette affaire-là?
Oui, exactement. Là, le dernier million qui était demandé pour des travaux, là, il y a 15 jours, là, le ministère, là, si on ne paye pas, c'est dessaisi, là, c'est du harcèlement, c'est de l'abus de pouvoir. Si on se rappelle au début, 72 heures après avoir commencé les travaux, quand on avait tous les permis, on est venu en aide aux sœurs pour lui enlever qui était pris avec ce fardeau-là de ne plus vouloir le monastère, puis il dépensait des 100 000 par année. 72 heures après, au lieu que le ministère le fasse le coup, mais le ministère ne connaissait même pas la propriété de Bertrand en ce qui concerne le monastère. C'est un dossier qui a été comme politique, c'est un dossier qui a été orchestré, et nous, on nous a mis une couleuvre dans la bouche.
Faut quand même rappeler qu'il y a des citoyens qui étaient à la base de ça, qui voulaient sauver absolument le ministère. Vous avez l'impression que le ministère, effectivement, a penché en faveur des citoyens sans autre analyse?
Effectivement, aucune analyse, sans savoir qu'est-ce qu'il faisait dans ce dossier-là. On a demandé des rencontres, ça fait 7 ans, on n'a jamais été capable de s'asseoir pour négocier. La seule affaire qu'ils voulaient, eux, c'est qu'on répare le monastère, puis après ça, ils nous donneraient le permis. Ils ont même empiété sur la terre en arrière complètement. Ils ont empêché un développement là, qui aujourd'hui serait peut-être complété, là, qui est un investissement de 30 à 35 millions que ça aurait donné à la ville de Berthierville en 2019. Et là, vous voyez, il n'y a rien de fait. Puis nous, on a dépensé comme 3 millions. Là. Puis il n'y a rien qui s'est dépensé pour une bâtisse qui est achetée à 250 000 $.
Puis il n'y a toujours pas personne qui en veut.
Il n'y a pas personne qui en veut. Le ministère n'en veut pas. Il n'y a personne qui en veut. On a passé. Dans le fond, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu entendre au début, en 2019. C'est une expropriation déguisée qu'ils nous ont fait. Et depuis ce temps-là, c'est du harcèlement, comme je vous ai dit tantôt. C'est de l'abus de pouvoir de la part du ministère. Puis ils font la sourde oreille. Silence à radio en ce qui concerne les rencontres avec le ministère. Que ce soit les députés, que ce soit les ministres, personne ne veut entendre parler du dossier du monastère de Berthierville.
À partir de maintenant, puisque vous n'êtes plus propriétaire du bâtiment, j'imagine que vous allez retirer là, toutes les mesures de protection que vous avez mises en place?
Bien, les protections qu'il y a là, c'était sur notre gouverne. Ça n'appartient pas, exemple, à la compagnie. Ça appartient à ma compagnie de construction. Fait qu'il faut récupérer mes clôtures. Le gouvernement, comme tel, à date, si nous, on a dépensé 3 millions, vous savez ce que les citoyens ont dépensé. C'est peut-être 5-6 millions que ça a coûté au ministère de la Culture là, pour essayer, avec les deniers publics. Et là, il va falloir qu'ils fassent la protection parce que nous, ils nous harcèlent 100 jours. Et tous les jours, on est comme responsable de ça, puis c'est un bâtiment qui n'est pas assuré, pas assurable. Fait que là, maintenant, à partir de vendredi, c'est le ministère de la Culture qui va avoir la responsabilité de faire la sécurité de ce bâtiment.
Il y a une autre procédure qui va se tenir, je pense, en cour supérieure, parce que puisque vous n'êtes plus propriétaire du bâtiment, ce que le ministère vous oblige à faire, ben ça devient caduque, si je comprends bien.
Exactement, ça devient caduque. Et le remède qu'ils voulaient nous faire passer, ben c'est eux qui vont digérer la couleuvre. Au moment où on se parle, je vous le dis, c'est eux qui sont propriétaires. C'était un abandon après avoir dépensé des millions pour essayer de faire plaisir au ministère, puis qu'eux s'acharnent à nous faire des travaux, puis c'est inacceptable.
Ça pourrait se régler s'il y avait un déclassement?
Bien, eux, comme tels, ils ne connaissaient pas le dossier, fait qu'ils se sont engagés dans un dossier qu'ils ne connaissaient pas, puis ils font faire des travaux, puis ils ne surveillent pas. Écoute, c'est de l'argent à dépenser inutilement, c'est inacceptable.
Alors, je veux revenir en terminant là, sur la dernière procédure en cour supérieure. On n'a pas évidemment de date d'audience, parce qu'on, en fait, le document est quand même assez imposant là, au niveau de votre défense. Ça peut prendre plusieurs mois encore, là.
Non. Au moment où on se parle, nous, c'est l'abandon, donc on n'a plus aucune responsabilité. Puis les ordonnances que le ministère avait comme pour essayer de continuer à faire des travaux, puis sans relâche, le gouvernement n'aura pas le choix. Ça va être désisté, puis ça va s'arrêter en ce qui concerne la démolition, puis les affaires-là. Nous, on n'est plus propriétaire, donc il n'y a plus rien devant le tribunal administratif en ce qui concerne la démolition. On n'est plus propriétaire.
Vous avez quand même, mais là, c'est vrai, c'est une dernière, vous avez quand même des terrains autour qui vous appartiennent, qui n'ont rien à voir avec le monastère. Est-ce qu'il y a encore possibilité de réaliser un projet?
Oui, exactement. Exactement. C'est du terrain vacant. Puis quand le ministère a voulu classer le bâtiment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis vu qu'ils ont vu qu'il y avait des terres en arrière, ils ont donné comme défense. Ah, les sœurs allaient marcher là. Fait qu'ils avaient gelé toute la terre. Puis c'est pour ça que le développement ne se faisait pas. Puis le ministère tenait à ce que le monastère soit réparé avant de nous donner des permis pour faire du développement. Fait que nous, comme tel, on se faisait imposer de vouloir rénover un monastère quand le ministère ne le connaissait même pas. Puis qui donnait comme, quand je vous dis, c'était comme une commande qui était faite, là, politiquement, là, on a été pris en otage, ça. Puis si on se rappelle, en 2019, quand la CAQ est venue au pouvoir, c'était ce qui a fait déclencher Berthierville, c'est que la maison Boileau à Chambly avait été démolie. Puis les prochains qui étaient comme on appelait les méchants démolisseurs, les entrepreneurs, on avait une mauvaise presse. Donc on a passé d'Almoulin à saucisse sans nous donner des raisons valables.
François Morin qui s'entretenait avec André Saint-Martin, un des actionnaires du monastère des Moniales dominicaines de Berthierville, qui a renoncé donc à son droit de propriété. Cette saga, malheureusement, là, risque de se terminer, j'ai l'impression, là, par un incendie. Là, ça traîne depuis tellement longtemps. Il est 16h22.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Ben oui, on a débuté aujourd'hui les travaux de patchage vulgaire. Je l'exprime de cette façon-là parce que c'est vraiment le cas. Patchage vulgaire sur la rue Baudry à Joliette. Et bien qu'ils se réjouissent là, de l'intervention du ministère des Transports sur la rue Baudry, la route 343, le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, trouve pitoyable les travaux qui ont été effectués hier sur la rue Baudry. Puis il y en a eu également aujourd'hui. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec Pierre-Luc Bellerose.
Donc, en ce moment, ils refont les travaux sur la rue Baudry, ils patchent un peu les trous. Est-ce que vous êtes rendu sur place pour voir un peu l'état des routes? Parce que j'ai vu que vous aviez dit, je ne sais pas si vous aviez dit que vous étiez satisfait, mais que vous étiez quand même content que le MTQ s'est déplacé, c'est ça?
Ben, c'est sûr qu'on s'est joué que finalement de l'action du côté du ministère après là, de multiples représentations et de multiples initiatives. Par contre, j'ai pris connaissance là, de photos qui m'ont été envoyées par des citoyens. Là. Ça a été malheureusement un travail bâclé. C'est vraiment pitoyable là, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, il va y avoir encore une fois là, des appels qui vont être logés auprès du ministère.
Est-ce que vous jugez que ça serait mieux peut-être de refaire l'entièreté de la route plutôt que de patcher par-dessus patch une fois après l'autre?
Ben, c'est ce qu'on réclame depuis des années, voire des décennies. Auprès du ministère, on nous dit qu'on n'a pas les fonds nécessaires puis qu'on ne projette rien avant 2030 et même plus loin. C'est difficile à comprendre et à croire quand on voit des articles comme la semaine dernière dans la presse où on nous dit que Québec va construire un pont qui mène vers nulle part avec un chantier de 80 millions. Donc, je trouve un peu la situation aberrante parce qu'on l'appelle le Stone Route qui accueille à chaque jour plus de 20 000 véhicules. Donc, c'est une route qui dessert là, l'entièreté du Grand Joliette, mais aussi des villes en amont et en aval. Donc, pour nous, ce sont des travaux prioritaires. Puis, effectivement, le simple rapiéçage n'est pas suffisant, surtout quand c'est fait de cette façon-là. C'est vraiment pitoyable.
J'imagine que vous estimez que ça serait peut-être mieux de investir dans les routes qu'on a déjà plutôt que d'en créer des nouvelles et de faire des ponts aussi.
Ben tout à fait, je l'ai dit, notamment concernant le troisième lien et tous les autres, le rêve de licorne qu'on peut avoir quand on a plus de 31 000 kilomètres sous l'égide du ministère et qu'on peine déjà à entretenir ces routes-là et les infrastructures. Faut penser aussi à notre pont Barbie qui est fermé en partie. Il y a des projets d'aménagement de la 158 là, qui sont là en attente depuis des décennies. Donc, il y a vraiment là des projets, des dossiers là, importants pour la région qui tardent là, à se concrétiser. Puis on a des programmations routières chaque année qui sont annoncées là, de la part des députés et des ministres. Cette année, on a envoyé un communiqué là, le vendredi soir. Je pense qu'on avait honte de nous dire qu'on avait encore rien à nous proposer. Donc, c'est un peu décevant tout ça. Puis on parle d'un entretien là, quand même là, de base. Là. C'est une route qui est vraiment là, en fin de vie.
Voilà. C'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, avec qui Marie-Pierre Poulin s'est entretenue. J'ai eu l'occasion de voir ce qui a été fait comme travaux aujourd'hui là, par le ministère des Transports là, sur la rue Baudry à Joliette, route 343. Ça n'a aucun sens. Quand tu passes, c'est pire que du patchage. C'est de répandre presque une poignée de gravelle, la taper, puis dans 2-3 jours, ça va avoir décollé de là. C'est complètement ridicule. Et lorsque ces gens-là travaillent, imaginez-vous là, à la pluie battante. Aujourd'hui, là, on travaillait à la pluie battante. Qu'est-ce que ça donne comme résultat en bout de ligne? Ça colle pas, ça tient pas. Et Pierre-Luc Bellerose qui parlait aussi de ce cas de pont qui mène nulle part. Ça, c'est sur la haute, la base Côte-Nord. Ouais, c'est dans le secteur. En fait, la route 138 se termine à Kegaska. Et on a décidé par petits bouts de route, de poursuivre cette route entre certains villages, dont Tête à la Baleine. Et là, on arrive à une place où ça mène nulle part. On fait un pont qui aboutit à nulle part. De l'argent qui est gaspillé à quelque part là, au niveau des routes au Québec, ça fait pas de sens. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, assez lourde depuis un peu après l'avenue Réaume, mais ça le demeure là, jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. Pour la suite des choses, on traverse aisément la rivière des Prairies, secteur Repentigny, ça va quand même assez bien, 40 Est. La montée de l'Épiphanie, 341, entre la 40 et la rivière de l'Assomption, passablement dense en ce moment. Pont Le Gardeur, ouais, c'est quand même assez lourd. Depuis Montréal et ce jusqu'à Repentigny de l'autre côté. Là, il y a passablement d'achalandage en ce moment. 25 Nord, oh là là, c'est depuis Henri Bourassa à Montréal et ce jusqu'à environ un kilomètre passé avec la jonction avec la 440 là, où ça demeure dense. Secteur Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, oui là ça va bien. Pont Sophie Masson, pas si mal en ce moment et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction ouest, on circule sans problème. Direction ouest, c'est un peu lourd depuis environ un kilomètre avant la montée des pionniers pour la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm, éternellement dévouée.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué gagnant au Super Radio Bingo le dimanche 3 mai. Remporte 200$ avec la ligne DG, Gisèle Pellan de la Valtrie, carte achetée au dépanneur Bussière. Et Michel Desrosiers de Saint-Jean-de-Mata grâce à sa carte achetée au dépanneur du Lac-Noir. La carte pleine, 4000$, a été partagée en 4 entre Simone Dufresne de Sorel-Tracy, Thérèse Grenier de Saint-Cuthbert, Marilène Cormier de la Valtrie et Joanne Roy de Saint-Charles-Borromée qui gagne 1000$ chacune. Quant à la deuxième chance, 600$, elle a fait 8 heureux qui remportent 75$ chacun. Janita Cyr de Saint-Alphonse, Robert Henri de Lanoraie, Mario Lafont de Saint-Thomas, Stéphane Aubin de Saint-Lucien, Sylvie Champagne de Notre-Dame-de-Lourdes, Julie Boisvert de Saint-Donat, Francine Gagné de Sorel-Tracy et Fabien Charrette de Saint-Zénon. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5000$ gagnés avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8$ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. Section Super Radio Bingo. 18 ans et plus. Le jeu doit rester un jeu.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapel longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps. Comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
L'actualité de ce mardi 5 mai en manchette. Rapiéçage de la route 343, un travail mal fait. Les deux propriétaires du monastère des Moniales abandonnent leurs droits et Christine Fréchette présente ses priorités. Et tout d'abord, Pierre Jubainville, le maire de Joliette, insatisfait des travaux sur la 343.
Oui, Pierre-Luc Bellerose, de même que des citoyens, des usagers de la 343, trouvent inadéquats, voire même ridicules, les travaux qui ont été réalisés aujourd'hui. Et Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec le maire et quelques usagers.
Le simple rapiéçage n'est pas suffisant, surtout quand c'est fait de cette façon-là. C'est vraiment pitoyable.
Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, réclame depuis des années la réfection complète de la rue Baudry, où circulent quotidiennement plus de 20 000 automobilistes. La route, qui est de juridiction provinciale, est parsemée de roulières, de trous et de bosses. Monsieur Bellerose croit que le MTQ ne prend pas toujours les meilleures décisions en matière d'investissement en infrastructure.
C'est difficile à comprendre et à croire quand on voit des articles comme la semaine dernière dans la presse où on nous dit que Québec va construire un pont qui mène vers nulle part avec un chantier de 80 millions.
De plus, des citoyens n'avaient pas de bons commentaires sur la qualité des travaux effectués.
Tu te promènes comme tu t'en vas à la ronde, là, dans un manège. Là.
Au lieu de patcher, puis que dans même pas deux semaines, ils vont avoir un coup des trous, il va falloir qu'ils leur fassent, mais qu'ils se décident de faire la route comme il faut avec de la qualité.
Ils réparent les roulières, ils les réparent pas. Ils réparent, ils bougent les trous. Demain, ça va être recommencé. Là.
Marie-Pierre Poulin, pour CFNJ Nouvelles.
Et Pierre, les deux propriétaires du monastère à Berthierville abandonnent leurs droits.
Oui, on peut dire que la saga de ce fameux monastère des Moniales dominicaines prend une autre tournure. C'est une compagnie à numéro qui l'a acquis en 2019, enregistrée devant notaire aujourd'hui une renonciation de son droit de propriété. Et la balle donc est dans le camp du ministère de la Culture qui l'a déjà classé patrimonial qui a empêché sa démolition pour laisser place à un quartier résidentiel.
Selon André Saint-Martin, un des deux actionnaires de la compagnie, le dossier est finalement clos.
Les ordonnances que le ministère avait comme prévues pour essayer de continuer à faire des travaux, puis sans relâche, le gouvernement n'aura pas le choix. Puis il n'y a plus rien devant le tribunal administratif en ce qui concerne la démolition. On n'est plus propriétaire.
Le ministère de la Culture et des Communications a fait réaliser des travaux préventifs et réclamer les sommes au propriétaire qui a aussi investi. Une saga qui s'avère somme toute coûteuse.
À date, si nous, on a dépensé 3 millions, vous savez ce que les citoyens ont dépensé. C'est peut-être 5-6 millions que ça a coûté au ministère de la Culture. Là.
Dès vendredi, le monastère deviendra plus accessible que jamais aux personnes mal intentionnées.
La protection qu'il y a là, c'était sur notre gouverne. Ça n'appartient pas, exemple, à la compagnie. Ça appartient à ma compagnie de construction. Fait qu'il faut récupérer mes clôtures.
On est toujours sans nouvelles du ministère de la Culture et des Communications. François Morin, CFNJ Nouvelles. Et Pierre, Christine Fréchette, qui siégeait pour la première fois aujourd'hui en tant que première ministre à Québec, a fait part de ses priorités.
Oui, elle a fait part de ses grandes priorités. Il faut dire qu'elle n'a pas grand temps devant elle. Au cours des 5 semaines d'activité en chambre, Elle affirme vouloir en faire le plus possible sur 5 grands thèmes: le coût de la vie, l'économie, les infrastructures, les services et l'identité. Il y a également un projet de constitution dans l'air qui devrait être adopté. Elle promet entre autres aux familles la conversion de 5000 places privées en garderie en places subventionnées. Et Mme Fréchette s'engage aussi dans d'autres mesures. Son gouvernement va aussi réduire le fardeau administratif des PME. Et la première ministre affirme vouloir construire encore un troisième lien entre Québec et Lévis.
On va aider les Québécois tout en protégeant nos finances publiques pour les générations à venir. Comment aider les plus vulnérables? Notre nouveau gouvernement va aussi être un bon partenaire avec ses différents interlocuteurs. Alors, je vous annonce que le ministre des Affaires municipales présentera des mesures législatives pour accorder plus de pouvoir aux villes afin d'accélérer la construction de logements abordables.
Scène fédérale maintenant, le Bloc québécois qui demande une intervention urgente pour sauver les PME.
Oui, c'est un gros dossier. On réclame donc une intervention, mais une motion a même été déposée ce matin par le Bloc. Depuis avril, les produits qui contiennent 15 % d'aluminium, d'acier ou de cuivre sont lourdement taxés. Et selon le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie, c'est la survie même des entreprises qui est remise en question.
Puis déjà, depuis les dernières semaines, on voit plein d'entreprises fermées au Québec en lien directement ou indirectement avec ça, mais toujours en lien avec l'attitude hostile là, de Donald Trump, qui prennent acte de la situation. Nous, on se désole du fait que c'est nous qui avons informé le gouvernement de l'impact de ce décret-là. Ça prend des semaines à bouger. Puis là, ben, c'est des programmes de prêts qui seront peut-être pas accessibles aux PME. Je pense pas qu'ils réalisent la gravité de la situation.
Et puis une conséquence directe de ces tarifs en hausse.
C'est le fabricant de semi-remorques Manac, qui est bien connu, qui va relocaliser une partie de sa production aux États-Unis en raison des droits de douane. Charles Dutille est président et chef de direction de Manac. Il plaide pour une réponse lui aussi plus ferme de la part d'Ottawa.
On importe au moins 25 fois la quantité de semi-remorques au Canada en provenance des États-Unis qu'on exporte vers les États-Unis. Okay. Fait que c'est sûr que quand je regarde rien que notre petite bulle à nous, notre domaine d'activité à nous, c'est facile de dire, hey, mettez des tarifs de 25 % sur ce qui rentre.
Et une sixième femme comme gouverneur général.
Cette fois, c'est l'ancienne juge Louise Arbour qui a été présentée ce matin par le premier ministre qui a vanté son parcours et ses principes. Le topo de Annie Guillemette.
La juriste montréalaise est reconnue pour sa carrière à travers le monde. Juge à la Cour suprême, au Tribunal pénal international et commissaire pour les droits de l'homme des Nations unies, Louise Arbour a exercé le droit sur le terrain. Elle est consciente que sa fonction de représentation sera différente.
J'ai connu les deux. Aujourd'hui, je suis non seulement très sereine, mais très enthousiasmée.
Le premier ministre Mark Carney a aussi souligné son examen des conditions carcérales des femmes et celui des inconduites sexuelles dans l'armée, qui a conduit un rapport dont l'impact est majeur.
Va redéfinir la justice militaire canadienne.
Pour Louise Arbour, devenir gouverneur général va rimer avec un tout nouveau devoir de réserve. En point de presse, elle a affirmé avec le sourire ne pas avoir d'opinion sur le non-bilinguisme de sa prédécesseure et a concédé qu'elle ne pourra plus critiquer Donald Trump comme elle a déjà fait.
J'étais une citoyenne qui avait sa liberté d'expression absolue.
Elle s'installera à Rideau Hall cet été. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Après leur nomination, les gouverneurs généraux n'ont plus d'opinion, mais Paul Saint-Pierre Plamondon en a une et il l'a accueilli avec dérision la nomination de Mme Arbour.
Est-ce qu'il y a une pire dilapidation des fonds publics puis un pire archaïsme? Est-ce que le gouverneur général, le représentant du roi d'Angleterre, devrait-il se faire confier un rôle politique pour expliquer aux élus puis à la population qu'est-ce que le roi d'Angleterre vient faire là-dedans? À quel point est-ce qu'on peut être archaïque?
Ça fait longtemps qu'on réfléchit à tout ça au Québec.
Oui, au moins elle parle français.
Oui, il y a ça de plus. C'est un petit plus pour elle par rapport à Mary Simon. Merci Pierre Jubinville.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Première Nation.
En ce 5 mai, les communautés autochtones soulignent ce qui est convenu d'appeler la journée de la robe rouge. C'est une journée nationale de sensibilisation à la réalité des femmes et des filles autochtones et des personnes LGBTQI+, disparues et assassinées. François Morin a échangé là-dessus avec le chef du Conseil des Atikameks de Manawan, Sibi Flamand.
Sibi Flamand, donc, une journée particulière pour toute la communauté. On appelle ça la journée de la robe rouge. Pour les gens qui nous écoutent, nous expliquer un peu justement ce que ça signifie.
C'est dans le cadre de la commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. C'est un mouvement qui se fait partout au Canada, dans toutes les communautés autochtones puis organisations autochtones pour commémorer des femmes puis des filles qui ont été portées disparues au cours des 40 dernières années.
Puis évidemment, du côté de Manawan, bon, on a dû subir, évidemment, là, ces pertes-là.
Effectivement, par exemple, je peux considérer comme le décès de Joyce comme un assassinat, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé le 28 septembre, mais je n'oublie pas non plus d'autres cas qui ont été portés là-dessus, notamment du côté des Anishinaabe en Abitibi, puis d'autres nations au Canada qui ont dû subir des pertes de leur sort.
Et le rouge qu'on porte aujourd'hui, ce n'est pas simplement une couleur, c'est aussi un symbole.
C'est un symbole, c'est la couleur rouge représente la féminité, mais aussi c'est un symbole pour se remémorer de ces femmes-là, de leur histoire également, pour pas qu'on oublie ce qui s'est passé. On se souvient également du rapport de la commission d'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Qui donnait des recommandations, des appels à l'action, puis encore aujourd'hui, ces appels à l'action-là doivent encore être travaillés pour les mettre en œuvre, puis ça prend toute la société canadienne et la société québécoise pour qu'il y ait des changements pour apporter la sécurité pour les femmes autochtones.
Vous faites ici allusion, j'imagine, à la commission Vient notamment?
Effectivement, dans la commission Vient, il y a également des recommandations qui devraient être mises de l'avant pour qu'il y ait une sécurité pour les femmes, mais également pour l'ensemble des peuples autochtones qui bénéficient des services là, auprès des services provinciaux.
Ça fait quand même un bail que la commission Vient a eu lieu, que les recommandations ont été déposées. La lecture que moi j'en fais, c'est que oui, il y a eu quelques avancées, mais c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. Il y a encore du travail à faire pour mettre en place tous les appels à l'action, les recommandations qui avaient été énoncées dans le cadre des deux enquêtes, des deux commissions en question, tant au niveau national, mais également au niveau provincial. Je pense que ça fait depuis plusieurs années que nous réclamons, que nous demandons qu'on travaille de concert entre les communautés autochtones, les organisations autochtones et le gouvernement provincial pour qu'il y ait de l'action justement en lien avec la mise en œuvre des recommandations. Puis je demande à la première ministre de faire des actions en ce sens pour pouvoir répondre aux appels à l'action qui ont été énoncés dans le cadre de ces deux commissions.
Et en terminant, et ça, on s'en était déjà parlé, je vous avais déjà posé la question, il y a un contexte électoral qui est favorable à, justement, là, à faire en sorte que tous les partis politiques entendent vos revendications.
Effectivement, je les invite à relire ces commissions-là d'enquête, ces rapports de commission, notamment la commission Vérité et Réconciliation, l'enquête nationale, puis la commission Vient, puis je peux même demander de relire la commission royale sur les peuples autochtones, un rapport qui a été déposé en 96.
Voilà, c'était Sibi Flamand, le chef du conseil des Atikameks de Manawan, avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt. Dans un moment, on parle du discours inaugural de Christine Fréchette avec Jacques Plante.
L'échappée grille et bar sportif est de retour dans ton salon grâce à la livraison DoorDash. Profite de nos plats savoureux et de nos prix abordables pour te faire un vrai festin digne du resto directement dans ta cuisine. Découvre notre menu et l'horaire de livraison via nos réseaux sociaux. Ah ouais donc!
Liane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 30 juin 2026. Diane Monette, audioprothésiste, 136 boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Au concert du dimanche à CFNJ, Daniel Bélanger.
Sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs.
Le concert du dimanche, dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ. Voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Bonne fin d'après-midi Claude, bonne fin d'après-midi tout le monde.
Christine Fréchette a 5 semaines pour tout changer.
Ouais, et 5 priorités.
Ouais.
Hein? C'est, on joue dans le 5.
C'était son discours inaugural cet après-midi à l'Assemblée nationale à Québec. Deuxième première ministre de l'histoire du Québec, malgré que, bon, c'est pas une première ministre élue comme c'était le cas pour Pauline Marois. quand même, elle a déjà tracé là, les lignes de ce qui s'en vient.
Ouais, ben c'est ça. On va miser sur le coût de la vie, évidemment, pour les contribuables. L'économie, les infrastructures, ça, là, on m'a dit, c'est une grosse job. Les services et l'identité. Faut remarquer que dans son discours, elle a confirmé des choses qu'elle avait évoquées pendant la campagne à la chefferie.
Ouais.
Notamment, là, la fameuse taxe de bienvenue. Les chiffres qu'on nous donne, là, ça pourrait faire bénéficier 38 000 Québécois à chaque année. Mais ça, c'est
on
les
on parle
gens...
d'un remboursement de la taxe de bienvenue.
Ouais,
là,
exactement.
Ça pourrait atteindre, là, 5 000 quelques dollars.
Tout près de 6 000 dollars, effectivement. Ouais. Mais, c'est pas tout le monde qui a cet argent-là d'impoche. S'acheter une nouvelle maison. Donc, elle dit qu'elle va trouver aussi d'autres façons d'aider les Québécois en difficulté. Alors, elle va sûrement parler au ministre des Finances. Ce qu'on a évoqué, puis ça, on l'a déjà fait dans le passé, là, avec la ministre Guilbeault, notamment, rabais sur l'immatriculation.
Oui.
Si t'as pas de char, là, c'est plate, mais tu passes à côté. Hein? Non, mais c'est ça pareil.
Oui.
On touche, là. On parle de détaxation d'une série de produits de consommation courante.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mettons, le savon, le shampoing, des
ben,
trucs comme
les
ça.
Les produits de nécessité.
Oui, peut-être. Ouais,
j'ai
ouais.
hâte de voir ça va être quoi la
qu'est-ce
liste.
Qu'est-ce que ce sera exactement?
Ouais, c'est ça. On va aussi présenter des mesures législatives pour accorder plus de pouvoir aux villes afin d'accélérer la construction de logements abordables. J'entends déjà des maires qui disent oui.
On a déjà bien assez sur les épaules
oui,
comme ça.
Est-ce que l'argent va suivre? Parce qu'il semble qu'il y a une cagnotte encore qui traîne à Ottawa qu'il faudra aller chercher, ramener à Québec et après ça la distribuer dans les villes et municipalités.
Et ce serait les villes, ce serait aux villes à s'attaquer là aux crises du logement, itinérance, tout ça.
On pelte.
C'est ça, on pelte dans le cours des municipalités.
Ouais. Elle a aussi parlé, bon, les hôpitaux, les écoles, les routes, elle dit, et je la cite, « ils ont besoin d'amour et on doit leur en donner ben rapidement oui. ». Ça, elle a parlé de rénovation ou encore d'agrandissement, les hôpitaux de Mont-Laurier, Saint-Jérôme, Drummondville, Gatineau, en plus de l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec, l'Hôtel-Dieu de Lévis et évidemment Maison Neuve-Rosemont.
C'est curieux, ça fait longtemps qu'on en parle. Joliette n'est pas là-dedans.
Non.
Et elle dit que, j'écoutais ce qu'elle disait, que dans certains hôpitaux, dans le cas de certains hôpitaux, on doit carrément se rendre à l'évidence. Leur état de dégradation est trop avancé pour que ça vaille la peine d'y rénover.
Exactement, c'est de l'argent jeté à l'eau carrément.
Ouais,
là.
Ouais.
Mais encore là, tu sais, quand on parle là, de, bon, les hôpitaux, les écoles, cinq semaines, c'est cool. Cinq semaines,
tu sais, ils vont.
Puis tu peux bien décider de faire beaucoup de chantiers. Tu sais, quand on parle des routes comme telles, mais à un moment donné, il y a une capacité. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de compagnies qui font ça. Tu sais, fait que t'as beau donner des contrats à tour de bras, si on pogne un été qui mouille là, ça va pas bien poser de l'asphalte.
Non,
tu comprends? Et c'est...
Ça me fait penser à l'asphalte qu'on posait sur la rue Baudry aujourd'hui, à
oui,
plus battante.
Ben, c'est ça aussi.
Ben oui.
C'est ça aussi. Uh-huh. C'est que c'est, si on botche, ça donne rien.
C'est ça, tout
alors,
à fait.
Alors, tant qu'à faire, elle l'a dit, là, tu sais, tu viens de l'évoquer, Claude. Si des édifices sont trop désuètes, ben, le meilleur moyen, c'est de pas de mettre l'argent là-dedans, mais c'est de partir en neuf ailleurs. Ben, c'est la même chose pour les routes.
Mm-hmm.
T'as beau vouloir patcher, mais si tu fais une job de cochon, ça va rester qu'à un moment donné, les trous reviennent, puis c'est la même chose.
On veut simplifier...
Alors ça, c'est pas demain la veille.
Simplifier les services de l'État, et là, ça inclut, entre autres, la santé. Et là, faut rappeler qu'en fin de semaine, il y a le nouveau programme, le SACLIC de la santé, là, qui entre en vigueur.
Dont elle a donné le feu vert.
Oui, exactement.
Là, on s'attend à voir de quelle façon ça va fonctionner. Elle en avait parlé pendant la campagne à la chefferie, les salles d'attente virtuelles.
Mm-hmm.
Ça, salle d'attente virtuelle, c'est que t'es pas obligé d'aller à l'urgence aller attendre. Tu t'en vas en ligne, tu t'inscris.
Ouais.
Quand il y a un trou, on te crie, viens dans 15-20 minutes, là, dépendamment t'es où.
À quelle distance.
À quelle distance, tu sais. Moi, je suis à peu près sûr que ça va bugger, ça va... finalement, on vous a envoyé un message, un courriel pour vous dire de venir dans une demi-heure. Ben, je l'ai pas eu, je sais pas.
C'est ça. Les services informatiques avec le gouvernement, c'est toujours comme ça.
Mais c'est ça. Moi, je l'ai trouvé bien drôle quand elle a dit, on va arrêter les fax désuets. Ça fait longtemps qu'on en parle des fax.
Système de santé, ben oui, il y a encore des fax.
Mais gardez-les, les fax, là. Je ne sais pas, là, mais faites votre banc d'essai, puis... Dépluguez pas le fax
trop vite. Non, ce serait pas une bonne idée.
On parle d'ajouter, ça c'est bien là, comme mesure. Comment ça va s'appliquer sur le terrain, reste à voir. Mais elle parle d'ajouter 1 million d'heures en soutien à domicile. Donc, les gens qui vont aider là pour les repas, s'habiller, se laver, là, les soins qui sont donnés aux gens
important.
Qui veulent rester en résidence. Moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent sur la route.
Qui veulent rester à la maison, tu veux dire.
Oui, c'est ça. Puis moi, je connais des personnes qui font de la route là-dessus, là, qui se déplacent d'une maison à l'autre. C'est peut-être la seule visite que la personne âgée a dans la semaine.
Hein? Je peux imaginer
c'est
pour les familles,
côté humain, là.
Pour les familles, les gens qui sont aidants naturels, qui ont besoin de répit aussi. C'est quand même, c'est essentiel.
Ça, c'est la mesure en tout cas qui m'a accroché le plus là, dans ce qu'elle a donné. Bon, on parle de la loi Clark là, pour les femmes qui craignent pour leur sécurité. Ces gens-là auraient le droit de savoir si leur conjoint. Quand on dit ça, leur conjoint, je dirais leur nouveau conjoint, là, s'il a un passé violent.
Mm-hmm.
Hein, ça aussi. Et je pense que ça va passer comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale.
Là. Oui.
Tout le monde va aller
personne
dans...
peut s'opposer
non,
à
non,
ça.
Non, c'est sûr, non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose. Bon, projet de loi pour renouveler dès maintenant la clause de souveraineté parlementaire sur la loi, notamment 96. La loi de Jolin Barrette aussi, ben, c'est allé le projet de constitution. On va y mettre le paquet aussi là-dessus. Et d'autres choses qu'elle avait évoquées pendant la course, là, rouvrir le PEC pour une période de 2 ans, la formation professionnelle et la formation aux adultes, ça va de pair avec ce qui a été annoncé à Ottawa la semaine dernière.
5 semaines pour réaliser tout ça.
Oui, bien, c'est-à-dire que oui, c'est ça. Hein? On le voit et puis on dit, écoute, c'est une balloune. Là.
Ensuite de ça, l'été arrive et on s'en va en campagne électorale.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Mais tu sais, il reste à voir... Oui, là, on a annoncé des choses. Comment tout ça va se faire? Parce qu'amené jusqu'à maintenant, on repart, on redémarre l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Mm-hmm.
Madame la première ministre, elle doit être présente en chambre.
Oh, et tout
donc, elle va avoir pas mal moins de trac pour patiner et avoir le momentum des médias, ce qu'elle a fait depuis les dernières semaines, de se promener un peu partout. Alors, c'est de voir comment tout ça va s'articuler. Ce qui va être important, c'est non seulement son vice-président, c'est l'ensemble des ministres autour d'elle et la députation. ce qui tout le monde met de l'huile de coude, là, et de faire avancer ça, ça va pas changer demain matin, il va y avoir encore des trous dans la rue, là.
Si tu veux mon impression, Christine Fréchette ne prendra pas de grosses vacances cet été.
Ah non, c'est sûr, là, même quand l'Assemblée nationale va ajourner, mm-hmm. ils vont continuer à travailler.
Oh oui. En pré-campagne électorale.
C'est
clair.
Cet été, attendez-vous à voir des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu dans vos barbecues, là.
Merci, Jacques.
Salut, bonne fin de journée.
Lanaudière PM, communautaire.
L'Épiphanie aura bientôt un nouveau comptoir d'aide alimentaire. Il s'agit du projet de l'organisme communautaire Les Colatines, qui a pu compter sur un appui financier important de la ville pour aménager dans des plus grands locaux et pour offrir des services, plus de services à la population, comme l'explique la directrice générale Daphné Bonarwitz à notre collègue Régent Turgeon.
Madame Bonarevitz, pardon, d'entrée de jeu, les Colatines, là, ça vient d'où puis c'est quoi sa mission rapidement?
Alors rapidement, ça vient d'un comité de parents en 2001 qui ont vu du taxage dans les boîtes à lunch, qui ont décidé de pallier la faim pour les jeunes en créant des galettes d'avoine. Donc il y a eu une distribution, ils ont fait ça dans le sous-sol de l'école en 2001. En 2004, l'organisme s'est incorporé, on est resté dans les sous-sols de l'école et depuis 2020, on est dans nos locaux sur la rue Notre-Dame à l'Épiphanie.
Donc, c'est quand même beaucoup d'ouvrages, là, et ça prend du personnel pour faire ces galettes-là.
Oui, c'est beaucoup d'ouvrages. Une chance, on a nos bénévoles. On est deux employés aux Colatines. Et une chance, on a notre armée de bénévoles. On fait 2800 galettes d'avoine par semaine, plus des collations spéciales, donc qui vont être un fruit, un laitage, un légume. Mais on envoie tout ça une fois par semaine à l'école.
Et là, votre organisation, pardon, s'apprête à relever un nouveau défi, là, avec un soutien quand même majeur là, financier de la ville.
Ah oui, la ville nous a fait un don de 11 000 $ qu'on a beaucoup apprécié. Le nouveau défi est l'ouverture d'un comptoir d'aide alimentaire dans un nouveau local, donc on parle de déménagement. On s'est rendu compte que l'Épiphanie a un grand besoin d'aide alimentaire, parce que nous sommes un désert alimentaire et nous n'avons pas de transport en commun. Donc, toutes les personnes dans le besoin sont obligées de se rendre à Repentigny, qui n'est pas forcément toujours faisable. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros besoin d'aide alimentaire. On parle d'à peu près une soixantaine de foyers dans la ville de l'Épiphanie qui ont besoin d'aide alimentaire de manière régulière.
Il y a de la pauvreté, le coût de la vie est en augmentation. C'est des facteurs importants, là.
En effet, c'est très, très important. On est tous dans des situations qui peuvent très vite devenir précaires. Une perte d'emploi, une séparation, peu importe. Il faut aider le monde. Il faut aider le monde à s'en sortir. C'est pour ça qu'au local, au nouveau local qui s'en vient, on veut que ça devienne un milieu de vie où les gens puissent venir trouver de l'aide, que ce soit de l'aide alimentaire, briser l'isolement. Juste une petite jasette, ça peut toujours faire du bien. C'est toujours... on veut que les gens se sentent à l'aise de venir chez nous pour tout et n'importe quoi.
Et on doit savoir aussi que la vie privée des gens sera respectée, là. Les gens n'ont pas besoin de savoir que je viens chercher un panier alimentaire, là.
Non, en effet, ce qui se passe dans ce nouveau local, ce qui nous a plu, c'est l'effet où il y a une entrée commune au bâtiment, mais des escaliers séparés, donc où on monte des escaliers en arrivant, et là, on peut aller aux Colatines, la mission, l'organisme à la base que tout le monde connaît. On a un projet de café communautaire, donc les gens peuvent très bien venir prendre un café ou manger un lunch ou peu importe, ou alors descendre et s'en vont au comptoir d'aide alimentaire. C'est pas écrit sur le visage des gens qu'ils ont besoin d'aide alimentaire. Ce qu'on veut, c'est que la confidentialité soit respectée, que les gens se sentent à l'aise de venir, rester dans la dignité aussi. C'est quelque chose sur lequel on est très, on porte extrêmement beaucoup d'importance.
Un déménagement prévu pour le 15 juin, ça veut dire plus d'espace, plus de bénévoles. Et à l'évidence, une offre de services améliorée, élargie.
Oui, on élargit beaucoup la mission. C'est avéré qu'au mois de décembre, on a dû élargir déjà la mission avec une AGE pour pouvoir être en mesure d'offrir le comptoir alimentaire, parce que ça ne rentrait pas dans notre mission à la base. Mais l'actualité fait qu'on est obligé de s'adapter au fil des années à ce qui se passe dans la société. Donc là, on a élargi notre mission et puis on n'est peut-être pas à l'abri de l'élargir encore plus, je dirais, dans un futur. On verra bien.
Régent Turgeon qui s'entretenait avec Daphné Bonnarywitz, elle est directrice générale de l'organisme Les Colatines de l'Épiphanie. Voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. Je salue et remercie nos collaborateurs François Morin, Marie-Pierre Poulain, Pierre Jubinville et Jacques Plante ainsi que Régent Turgeon. Ici Claude Fournel, passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare sera là dans un instant pour vous présenter le 5 à 7 trad à CFNJ. Nous, on se retrouve demain, on sera là à 16h pour une autre édition de La Naudière PM. Bonne soirée! We'll be right back.